Alors, merci de m'accueillir. Donc, je suis sœur dominicaine de la présentation de Tours. Je vis en communauté à Paris. L'essentiel de mon temps, je le passe en prison, comme médecin à la maison d'arrêt des femmes en Île-de-France, dans une maison d'arrêt des femmes en Île-de-France. Et j'ai fait partie pendant 5 ans d'un groupe qui s'occupait à la conférence des évêques de France de tenter de lutter contre les dérives sectaires. Et je le dis puisque c'est un peu la raison pour laquelle je viens vous parler d'emprise, ce qui n'est pas vraiment mon fonds de commerce habituel, devant vous cet après-midi. Voilà. Donc j'avais fait un DU avec la fac de médecine en 2018 ou 2017, je ne sais plus, parce qu'on fait des temps de formation permanente, et que j'avais suivi un DU sur l'emprise à l'occasion du retour de Syrie, de jeunes femmes qui étaient détenues à Fleury. Et puis, de fil en aiguille, au fil de l'eau, dans ce DU, je me suis dit que, comme religieuse dominicaine, j'avais peut-être intérêt à travailler des thèmes plus catholiques, vu le nombre de victimes d'emprise dans l'Église catholique qui défilaient dans ce DU, pour témoigner de ce qu'ils avaient vécu, notamment chez les Légionnaires du Christ, mais aussi dans d'autres communautés tout à fait ordinaires. Et c'est vrai que du coup, ça m'a amené à travailler, à rendre un mémoire qu'au début, j'étais un peu partie en dilettante. Et finalement, j'ai travaillé un mémoire sur les dérives psychospirituelles, ce qui m'a amené à lire des choses autour des agapathérapies imaginées par la communauté des Béatitudes au Puy-en-Velay. Agapathérapies qui sont désormais terminées, puisque quand Mgr Crépy était évêque du Puy, il y a mis fin, il a modifié la formule, donc c'est tout à fait autre chose aujourd'hui. Et sur l'énéagramme, et à la suite de ce travail sur l'énéagramme, que je n'avais pas du tout l'intention de publier, la MIVILUD, donc la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, est venue me chercher en disant, il y a notamment en région toulousaine des entrepreneurs dont le catalogue de formation permanente est truffé d'énéagrammes. Ce serait bien si vous puissiez publier, et si vous pouviez publier. Et de fil en aiguille, j'ai réfléchi, je ne savais pas trop, je n'avais pas forcément envie d'aller au feu. Et puis, avec mon éditeur, on a décidé qu'on publiait ce texte qui est ici. Voilà. Mais je ne parlerai pas d'énéagramme aujourd'hui, je vais vous parler de l'emprise sectaire dans l'Église catholique. Et notamment, alors c'est compliqué de ne pas donner d'exemple précis, hein, mais je n'en donnerai pas. Je vais inventer des communautés qui n'existent pas, de façon à vous donner quelques exemples. Et je voudrais commencer par cette citation de Hannah Arendt, qui a travaillé la question de l'emprise dans un triptyque qui s'appelle « Le système totalitaire ». Donc elle a travaillé l'emprise du nazisme, mais on aurait pu tout à fait imaginer la même chose pour le stalinisme. Tout régime totalitaire est finalement un régime d'emprise, d'un abus de pouvoir. Et donc, que ce soit dans un microcosme ou dans un macrocosme, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et ce sont ces mécanismes que je voudrais essayer de mettre en évidence cet après-midi. Donc, ils existent évidemment hors de l'Église catholique, bien évidemment. Mais voilà. Ce que écrit Hannah Arendt dans le système totalitaire, c'est ce que le sens commun et les gens normaux refusent de croire, c'est que tout est possible. Ce que le sens commun et les gens normaux refusent de croire, c'est que tout est possible. Et je pense que ça, c'est le principal obstacle pour lutter dans le traitement des abus de pouvoir au sein de structures religieuses. Parce qu'en fin de compte, on ne comprend pas que tout est possible, y compris des choses dingos. Voilà. Alors, dans ce topo que je vais vous faire, je me suis inspirée un petit peu de mon expérience à la CEF, mais surtout d'un texte de Jean-Pierre Jouglat, qui était le patron du DU sur l'emprise que j'ai fait. Alors, ce texte, c'est bien parce qu'il vient d'être publié dans la revue Études du mois de juin. Donc il est accessible, je pense, moyennant finances sonnantes et trébuchantes, genre 3 euros sur le site Cairn. On peut acheter maintenant un article à la fois, donc ça c'est pas mal. Donc vous retrouverez dans cet article les choses que j'ai pu dire. Et puis, je me suis inspirée d'un livre qui est sorti là en 2025 dans Sociologue, qui s'appelle Francis Château-Reynaud. Et le titre de l'ouvrage, c'est « L'empereur et son double, pragmatique du pouvoir et sociologie de l'emprise ». Donc là, c'est dans un cadre tout à fait non catholique, mais en général, les mécanismes de l'emprise. Et voilà. Alors, la difficulté quand on parle d'emprise à caractère sectaire, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Parce que souvent, on va penser que c'est un certain type de discours, ou bien que les adeptes sont des gens qui sont fragiles, etc. Donc il faut déconstruire un certain nombre d'idées toutes faites. Chacun d'entre nous peut se faire avoir par un gourou. Il n'y a pas besoin d'être vulnérable pour ça. En revanche, le fait de rentrer dans un groupe à caractère sectaire va nous rendre vulnérables. Donc il ne faut pas se tromper, la vulnérabilité n'est pas avant de rentrer, c'est la façon de fonctionner du groupe qui va rendre vulnérable. Voilà. Et bien souvent, on s'intéresse beaucoup trop aux soi-disant pathologies des membres en disant ben, « ils sont fragiles, qu'est-ce qu'ils avaient ?» tout ça, et on ne s'intéresse pas assez à la psychopathologie du leader déviant, en fait. Qui, lui, c'est intéressant peut-être de voir comment il fonctionne. Il n'y a pas simplement un type de leader déviant, ce n'est pas forcément des gens pervers. C'est, voilà. D'abord, la perversion, c'est un truc très particulier qui est finalement très rare. Hein, quand on regarde en psychiatrie, moi, en prison, j'en ai peut-être rencontré deux en 28 ans de prison, pas beaucoup plus. Hein. Donc on a tendance à parler beaucoup trop rapidement de pervers narcissiques. Je regarde ma voisine de gauche. Mais concrètement, les authentiques pervers sur le plan psychiatrique, c'est très rare. Alors, des gens ont des traits de manipulation, mais il faut faire attention de ne pas trop vite mettre des étiquettes sur les gens. Voilà. Donc les gourous, ils peuvent effectivement avoir des pathologies de la relation, mais l'adepte, pas nécessairement, en fait. Et ce que montre très bien Jean-Pierre Jouglas, et là, moi, où je le rejoins complètement, c'est qu'en fin de compte, le problème de l'emprise sectaire, c'est un problème de pouvoir, et exclusivement une question de pouvoir. Autrement dit, c'est une question politique, puisqu'il va s'agir pour quelqu'un, donc un leader, un conducteur déviant, si vous voulez, d'instaurer dans le groupe qu'il constitue un pouvoir qui sera différent de celui de la cité, dont il va tenir les trois fonctions symboliques principales, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Voilà. Donc c'est un territoire avec une frontière et les trois pouvoirs démocratiques concentrés dans les mains d'une unique personne. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez dormir le reste de l'après-midi. C'est ça le truc à comprendre. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est comment on rentre là-dedans. Alors, Francis Château-Reynaud, le sociologue que je citais, donne quelques définitions de l'emprise. Il va dire « L'emprise désigne une relation foncièrement asymétrique, installée durablement, dont il est difficile, risqué, coûteux de s'extraire par un acte volontaire. » Les acteurs parlent souvent après coup d'un véritable système en détruisant les capacités à engendrer ses propres prises sur le monde et donc se déprendre de l'emprise, se libérer d'une emprise prend beaucoup de temps et passe par des épreuves de très grande intensité. L'emprise désigne la prise de contrôle ou la colonisation du champ d'expérience d'autrui. Donc, en fin de compte, l'emprise, ça va être que votre champ d'expérience va être envahi par quelqu'un d'autre qui va vous imposer sa manière de penser, sa manière de croire, sa manière de vivre. Donc, je disais, un territoire est sous l'autorité absolue de quelqu'un qui détient tous les pouvoirs, le pouvoir temporel comme le pouvoir spirituel, avec bien souvent une confusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Alors, précisément, c'est antidémocratique, en ce sens que la démocratie, ce qu'elle instaure, c'est la séparation des pouvoirs. Et donc, tout l'enjeu dans la lutte contre les dérives sectaires dans l'Église catho, ça va être d'instaurer des contre-pouvoirs. Voilà. Et comment dire, cette tentation du despotisme, de l'abus de pouvoir, Montesquieu l'avait tout à fait bien repéré dans l'Esprit des lois. Je cite: C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir soit porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait? La vertu même a besoin de limites. Pour qu'on ne puisse abuser de pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut donc des contre-pouvoirs institués pour lutter contre l'abus de pouvoir. Alors à cela, il faudra ajouter que dans les groupes déviants dans l'Église, ces groupes mettent en question l'unité de l'Église. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que l'Église, elle vit en archipel avec chacun en silos séparés. Alors voilà, vous êtes dans votre paroisse à Castenay, très bien, mais peut-être que pas très loin, il y a un groupe qui est exclusivement dans des communautés de je ne sais pas qui vont jamais vous rencontrer, et chacun vit sa petite vie d'église dans son coin. C'est d'autant plus vrai dans les grandes villes où on a le choix du facile, si je puis dire. Ouais, c'est d'autant plus vrai dans les grandes villes où on peut, ben, à 3 mètres d'écart, trouver quelqu'un qui correspond à notre sensibilité, hein. Moi, la première, quand je suis fatiguée de ma paroisse, je vais chez les jésuites, ça me repose le cerveau. Bon, voilà. C'est pas trop loin, bref. Donc, en fait, les groupes déviants peuvent tout à fait remettre en question l'unité de l'Église. Alors, si on regarde l'étymologie du mot emprise, on se rend compte que. Alors, ça, c'est intéressant. Il faut toujours regarder les étymologies et l'histoire des mots. Dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, l'emprise représente le participe passé substantivé au féminin de l'ancien verbe emprendre, entreprendre, issu du latin populaire imprédere, dérivé du latin classique préendere, prendere, prendre. Emprise a d'abord signifié belle action, prouesse chevaleresque. Le mot est repris au XIXe siècle par croisement avec empire, empreinte. Il prend alors le sens de domination intellectuelle ou morale. Mais c'est aussi un terme de droit administratif qui désigne une mainmise de l'administration sur une propriété privée, une emprise de terrain. Donc il s'agit bien de territoire. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? On va rentrer dans le dur. Qu'est-ce que c'est ce territoire du groupe à caractère sectaire? Ça peut être un territoire réel. Par exemple, vous avez tous vu, ça je peux le citer parce que c'est public, le rapport de l'Arche de Jean Vanier avec la ferme de Trolly. Clairement, la ferme est un lieu, un territoire réel qui est avec une frontière. À la frontière, elle est symbolique, c'est-à-dire que personne ne savait ce qui se passait dedans. Donc une frontière très étanche, où seuls quelques-uns savaient ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Mais c'est un territoire avec un double langage. Les choses qu'on dit à l'intérieur et celles qu'on dit à l'extérieur ne sont pas les mêmes. Et parfois, ça peut prendre aussi l'aspect d'un archipel. Et on voit ça avec les influences du frère Thomas Philippe, qu'on retrouve dans divers lieux, des carmels aux alentours, des communautés monastiques, etc. Donc une sorte d'archipel. En tout cas, c'est un territoire. Ça peut également être un territoire virtuel, des gens qui se retrouvent sur des réseaux sociaux avec tout le temps les mêmes, qui délivrent le même type de discours, et finalement se retrouvent. Alors, c'est les ressources du complotisme, hein. On entend tout le temps la même chose sur les mêmes sujets, et donc on est conforté dans l'idée que c'est ça la vérité, sans du tout plus avoir de lieu de débat avec des gens qui pensent différemment. Et donc dans ce territoire, le conducteur spirituel déviant va essayer comment dire, de faire en sorte que le territoire soit vécu comme un lieu de pureté. Donc tout le reste est impur et à l'intérieur du territoire, c'est un lieu de pureté. Autrement dit, derrière ça, il y a un projet politique. Le groupe déviant est porteur d'un projet politique. L'extérieur est pensé comme hostile et la frontière va délimiter le territoire de pureté et du monde extérieur hostile. Et seules celles qui font, les personnes qui font partie du groupe à l'intérieur sont considérées comme fiables. Alors bien souvent, il y a aussi non seulement le groupe, enfin le monde extérieur est hostile, il peut y avoir tout un tas de discours sur les démons, sur le fait que le monde est diabolique, etc. Donc le groupe se vit comme une citadelle assiégée. Et les membres du groupe vont avoir pour mission de transformer ce monde hostile et finalement de faire rentrer l'extérieur dans le projet de purification pour étendre le territoire de la zone de pureté. Alors c'est comme ça qu'on peut entendre des gens, moi j'ai entendu des gens dans tel ou tel groupe, mettons alors les petits frères des coquelicots de Jésus, mettons, qui n'existent pas, les petits frères des coquelicots de Jésus, le responsable, le conducteur spirituel déviant, dit aux petits frères, surtout quand l'évêque vient nous visiter, il ne faut pas parler des prières qu'on fait le soir, parce qu'il ne comprendrait pas, c'est un don que le Seigneur nous a fait à nous, en fait, mais l'évêque ne comprendrait pas, donc surtout il ne faut pas en parler. Voilà. Et ça on le retrouve dans un certain nombre de communautés qui ont explosé aujourd'hui, où les anciens membres disent « oui, oui, on nous disait qu'il fallait absolument nous méfier de toute personne extérieure, et l'évêque est considéré comme quelqu'un de non fiable, en fait. » Donc le discours qu'on va servir à l'évêque, c'est un discours qui est nickel, hein, qui en général... plus dans la droite ligne que le pape lui-même, on coche toutes les cases et il n'y a aucun souci, tout va parfaitement bien. Donc si l'évêque vient juste passer une demi-journée de temps en temps, il y verra que du feu, en fait. Et quand il y a des visites canoniques, il s'agit aussi que les visiteurs ils soient un peu affûtés, quoi. Parce que le visiteur qui est un peu naïf et qui vient passer 3 jours, il y verra que du feu également. Voilà. Je me rappelle d'une sœur qui avait visité un groupe de sœurs, et qui, elle, pour le coup, était futée, et qui disait, au bout de la 3e sœur que j'ai visitée, le discours était exactement le même, donc j'ai bien compris qu'il y avait un souci, c'est-à-dire que c'était un discours convenu, qui était un copier-coller, qu'elles avaient appris par cœur et qu'elles resservaient. Dans une visite, dans une communauté normale, ce ne sera pas le même discours de tous les membres. Il y en a qui vont râler, il y en a qui vont dire qu'ils vont bien, il y en a qui vont critiquer la prieure, et ça, c'est normal, en fait. Mais le fait qu'il y ait zéro critique, que tout aille parfaitement bien, que tout soit lisse, c'est plutôt très embêtant. Alors donc, cette fameuse frontière, elle est une sorte de filtre entre les profanes, ceux qui sont à l'extérieur, dans le monde exotérique, et les fidèles qui sont dans le groupe, dans le monde ésotérique. Voilà. Le conducteur spirituel déviant, il va cumuler toutes les fonctions. Il va être à la fois le père de la communauté, ou la mère quand c'est une femme, hein, le maître spirituel du lieu, l'organisateur de la vie, le juge, etc., le gendarme, etc. Alors, un psychanalyste, Jean Clavel... montre comment un conducteur déviant avec des traits pervers, encore une fois, tous les leaders ne sont pas des pervers, hein. Ça peut être des grands névrosés qui ne sont pas forcément des pervers. En tout cas, ce monsieur montre une figure de leader déviant avec des traits pervers. Le pervers s'introduit volontiers dans les structures sociales les plus fortes, les plus hiérarchisées, celles de l'Église, de l'armée, de la magistrature. Il en aime les rites, le cérémonial, la liturgie, dans lesquels il se coule avec une aisance qui laisse pantois et admiratif le névrosé ordinaire. Il gravit, comme en se jouant, les échelons de la hiérarchie. Sa brillance, qu'il sait à l'occasion habiller du gris le plus terne, il la doit à ce qu'il ne fait pas sienne les règles du milieu où il s'inscrit, mais à ce qu'il en joue, en gardant toujours son attention éveillée aux règles non dites, non écrites, celles auxquelles l'establishment est le plus attaché. Il joue de la faiblesse et de la lâcheté de l'autre, sachant le compromettre s'il ne peut le subjuguer, et cela finalement moins pour son profit personnel que pour l'univers officiel. Le pervers passe finalement inaperçu du fait que l'opinion générale identifie la perversion avec les pratiques étiquetées comme telles, mais celles-ci peuvent fort bien rester secrètes. La perversion ne se confond pas en effet avec une pratique sexuelle qui serait anormale, car la perversion est principalement un jeu soutenu avec, en même temps que contre, les idéaux d'une société qu'il convient soit de défier ouvertement, soit de manipuler secrètement. Le groupe social reste ainsi médusé, aveugle, le plus souvent admiratif, sauf à devenir tout à coup horrifié et rejetant. C'est une longue citation. Ce que ça veut dire derrière, c'est que le conducteur déviant, ça j'y reviendrai tout à l'heure, il fascine. Et quand on est fasciné, vous savez, c'est comme la méduse, là. Vous êtes fasciné, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus penser si vous êtes fasciné, en fait. Vous êtes ébloui. Et puis, comme il fascine, on est aveuglé, en fait. C'est la différence entre quelqu'un qui éclaire et quelqu'un qui brille. Quelqu'un qui brille, il éblouit. Il peut être très brillant, hein. Et bien souvent, on voit que les fameuses idoles qui sont tombées dans notre église étaient des gens plutôt brillants, en fait. Donc, voilà, la différence entre quelqu'un qui est... Vaut mieux être, comment dire, éclairé que briller dans la vie. C'est préférable. Et c'est une bonne réflexion, je trouve, sur la vie chrétienne, cette affaire. Vaut mieux éclairer que briller. Voilà, ça, c'est un jésuite qui me l'a appris, comme quoi, vous voyez, le dialogue interreligieux existe, même chez les dominicaines. Alors du coup, je m'attaque maintenant à ces fameux trois pouvoirs, la collusion des pouvoirs de type totalitaire. Donc le leader va mettre en place sans aucune originalité le pouvoir normatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ah oui, ce que je voulais dire, je savais que j'avais oublié une idée. Dans le fait qu'il fascine le leader, il va chercher ce qu'on appelle le tampon. C'est-à-dire, il va chercher l'acquiescement de toutes les autorités qui vont valider ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux ? Alors je pense encore une fois à Jean Vanier ou à Thomas Philippe ou à Marie-Dominique Philippe, ça, c'est facile d'en parler puisque maintenant tout est clair. Eh bien on les voit en photo avec les papes, on les voit en photo avec les évêques. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'arrête pas de se montrer avec les huiles locales, petit signal quand même, parce que du coup ça veut à la fois dire... Regardez comme je suis bien, puisque je n'ai aucun problème. Les autorités du lieu trouvent que tout ce que je fais, c'est bien. Et c'est aussi pour compromettre l'autorité du lieu en question, de se mettre avec lui en photo tout le temps. Voilà. Donc moi, j'ai en tête des groupes qui se mettent en photo avec 12 000 évêques. Voilà. Avec le pape, avec François, en grand habit, etc. Donc, trois pouvoirs. Tout d'abord, le pouvoir normatif législatif. Le conducteur spirituel va édicter les normes internes du groupe en fonction de ses désirs personnels ou de ses fantasmes. Et les normes internes sont au-dessus des lois de la société. C'est comme ça que dans des groupes, il y a eu, par exemple, absence d'inscription... comment dire, de paiement des cotisations sociales, soi-disant par pauvreté, voilà, où on trafiquait un peu avec l'État, puisqu'on avait une carte vitale pour 5 ou 6 personnes qui se passaient leur carte vitale, par exemple. J'ai un groupe en tête, c'est ce qui est arrivé. Ce qui fait que les femmes ou les hommes qui sortent après 10, 15 ans de ce genre de groupe, eh bien, ils se retrouvent parfois même plus que ça, avec pas de retraite, parce qu'ils se rendent compte que la communauté n'a pas cotisé pendant 15 ans sur la retraite. Voilà. Donc ils ont un trou de 60 trimestres, par exemple. Donc vous voyez, quand on fait une visite canonique, c'est ça aussi. Il ne faut pas rester à la discussion de comment ça se passe la prière et la vie commune. Il faut aller voir les comptes, il faut dire comment vous faites quand les gens sont malades. Est-ce que les gens ont des cartes vitales ? Est-ce que les membres de la communauté ont le choix du médecin traitant ? Est-ce qu'ils ont le choix du confesseur ? Voilà. Il faut aller dans les choses très concrètes, en fait. Allez voir. C'est des gens qui... Moi, je me rappelle avoir visité un groupe, donc les petits frères du Coquelicot de Jésus, où ils accueillaient des jeunes, mais la maison n'était pas aux normes, et ils mangeaient des restes de la banque alimentaire qui était périmée. Alors, s'ils veulent manger la nourriture périmée, très bien, sauf que dans ces cas-là, ils ne la servent pas aux enfants, par exemple. Et du coup, comme le leader instaure les lois internes du groupe, ça va être les horaires, hein, ça va être qui fait quoi, ça va être des groupes où le matin, vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre journée. Donc vous allez vous retrouver, soi-disant dans un chapitre, où le leader va vous dire, bah, toi aujourd'hui tu vas faire ça, mais non mais j'avais commencé ça hier, c'est pas grave, aujourd'hui tu fais ça. Voilà. Donc vous ne savez pas ce qui va se passer dans votre journée, vous attendez que le leader vous dise ce que vous allez faire. Et c'est pas ça l'obéissance hein, dans la vie religieuse, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Ensuite, il y a un pouvoir exécutif. Donc en fait, le pouvoir exécutif du leader, ça va se décliner eh bien, autour des attributs régaliens classiques, c'est-à-dire on va déjà renommer l'adepte, on va lui donner un nouveau nom, on va utiliser une langue qui va être spécifique au groupe, avec des expressions qui reviennent tout le temps, qui n'ont pas exactement le même sens que ce qu'on entendrait nous à l'extérieur du groupe. Un système éducatif alternatif, s'il y a des enfants dans le groupe, donc des écoles hors contrat, etc. Un système de soins alternatifs, en général plutôt branché. Moi, je me rappelle d'une communauté où, pour arrêter de fumer, les sœurs étaient invitées à fumer de l'ayahuasca, qui est une drogue péruvienne interdite sur le territoire. Par exemple, on va inventer une histoire mythique collective. Alors déjà, il va y avoir souvent l'histoire mythique du leader. Souvent, d'abord le leader, il va changer de nom. Voilà. Et puis, il va s'inventer une histoire mythique de héros qui est fausse. Typiquement, Éphraïm aux béatitudes. Typiquement. Et puis, il va y avoir un système financier et économique propre, dont le seul bénéficiaire va être le leader. Je pense à une communauté où il est revendiqué une grande pauvreté, mais où la fondatrice a un régime de faveur et elle vit dans le luxe. Voilà, ça c'est très commun. Il va y avoir une police et une armée propre, c'est-à-dire des gens qui vont rapporter au leader ce qu'il constate. En fait, avec une forme du coup de contrainte qui est qu'on est toujours surveillé par quelqu'un. Y compris quand la contrainte, elle est tellement intégrée dans la vie que c'est soi-même qui allons dire au leader tout ce qu'on a fait. Une communauté aussi dont je me souviens, où les sœurs, alors ça c'était il y a quelques années maintenant, elles ne le font plus, devaient écrire leurs pensées du jour, tous les jours, dans un cahier qu'elle donnait à la prieure qui devait lire les pensées du jour tous les jours. Là, quand même, on est dans l'intrusion comme il faut. Et puis, troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Donc, le leader va établir un système judiciaire interne qui va être. Ça peut être la purification, c'est-à-dire. Comment dire? J'ai prié pour que tu guérisses et tu n'as pas guéri. C'est donc que tu n'as pas accueilli ta guérison. Donc il va falloir que tu redoubles d'efforts pour accueillir ta guérison. Et pour ça, il va falloir que tu fasses ça, 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 par exemple. Et dans le pire, donc un travail, bien souvent les membres sont épuisés parce qu'ils travaillent toute la journée. Même, en plus, ils sont doublement épuisés parce qu'ils ne savent parfois pas pourquoi ils travaillent. Et puis, ça peut être à l'extrême un bannissement qui peut être très mal vécu, c'est-à-dire une exclusion du groupe qui n'est pas juste on va t'accompagner pour sortir. Hein. C'est un bannissement au sens le plus profond du terme de quelqu'un dont le réseau relationnel était devenu intégralement le réseau de la communauté et qui se retrouve du jour au lendemain, mais posé à la sortie avec rien et débrouille-toi. Donc du coup, la construction d'un lieu impénétrable pour le regard extérieur va s'accompagner de ce que je disais au début, à savoir la mainmise sur l'expérience existentielle de l'autre. Et donc le territoire va aller jusqu'à prendre pouvoir de l'expérience existentielle de l'autre, qui ne pourra plus juger de ses actes et de ce qui lui arrive autrement que dans les critères imposés par le leader déviant. Alors comment ça se passe tout ça, la mise sous emprise ? Donc, je voudrais essayer de décrire sommairement le processus de mise en état de faiblesse autour de 8 étapes. Tout d'abord, la rencontre, alors en général, ça se passe très bien au début. C'est-à-dire qu'au début, on va rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être, par exemple, alors les petits frères des Coquelicots de Jésus, ils sont, mettons, 12 dans une communauté, voilà, et ils chantent bien. Donc en fait, à la messe, c'est eux qui animent la paroisse que l'évêque leur a confiée, et ils chantent super bien. Donc il y a plein de jeunes qui gravitent parce que les chants sont sympas. Voilà. Et puis il va y avoir la mise en place de la séduction, c'est-à-dire qu'on va commencer à s'approcher de tel ou tel jeune en disant « Mais tu veux pas venir passer un week-end ?» Et on a un groupe de jeunes pour les... je sais pas quoi, moi, 18-21 ans, tu viens quand tu veux, c'est une fois par mois, voilà. Donc très bien, tu viens une fois par mois. Et puis il y a un appartement, si tu veux faire une année de discernement, une année pour Dieu, si tu veux, t'es colocataire, c'est gratuit, tu rends des services à la communauté, tu joues de la musique, voilà. Et paf, ça y est, on met la main sur quelqu'un qui est, au début, avait pas particulièrement de vulnérabilité, mais qui va progressivement rentrer dans un groupe où, assez vite, la totalité de sa vie, ça va être de faire de la musique pour les petits frères des Coquelicots de Jésus, en fait. Donc peut-être que ce jeune homme, il a un travail, et ben on va lui dire, écoute, arrête ton travail, et puis, tu vois, à la limite, la communauté te loge et te nourrit, donc ça te fera une expérience, tu vas, t'as la formation musicale, et puis t'as du talent, quand même. T'as tellement de talent, quoi. Et puis comme en plus, le jeune, il en parle à sa famille, la famille ne se méfie pas du tout, puisque on a confié cette paroisse à ce groupe, et puis l'évêque vient régulièrement. Donc pourquoi s'inquiéter, franchement ? Voilà. Alors moi, j'avais recensé avec les gens de la CEF, sur le site de la CEF, toutes les années pour Dieu proposées. Et ce qui était très impressionnant, c'est que ça matchait avec presque toutes les communautés pour lesquelles on avait des signalements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les années pour Dieu sont avant tout, alors ce n'est pas 100% des années pour Dieu, mais la plupart des années pour Dieu sont un produit d'appel pour des groupes, alors je ne dis pas que ce sont tous des sectes, hein, mais pour des groupes problématiques qui ont à un moment donné usé d'abus de pouvoir. Quand même, c'est une vraie question cette histoire. Donc, rencontre, mise en place de la séduction, la question des chants, la musique, ça revient très souvent, une séduction par le chant, parce que plus vous chantez quelque chose, plus la mélodie rentre dans votre tête, là, plus en fin de compte les paroles elles vont vous revenir, et en fait ça va modifier votre rapport à la foi. Et ça, je suis en train de lire un livre que j'ai pas fini, j'aurais voulu le finir pour là, mais j'ai pas eu le temps, sur les mouvements évangéliques américains, et par un sociologue genevois, il montre à quel point les chants modifient la perception du contenu de la foi. Quand pendant 25 ans, vous chantez « Moi et mon Dieu, moi, je, Dieu, tu » sans nous, sans qu'il y ait nous, à un moment donné, ça fausse la perception de la communauté ecclésiale. Voilà. Et pour parler très clairement, le fait que désormais on chante quasi exclusivement des chants du Renouveau ou de l'Emmanuel dans nos paroisses, je pense que c'est un problème. Parce que, alors il y en a qui sont très bien, les chants de l'Emmanuel, il y en a qui sont très bien, mais il y en a beaucoup qui sont inspirés du pentecôtisme américain avec « moi qui m'adresse à Dieu ». On est dans une relation « je tue ». On n'a plus du tout le « nous » de la communauté ecclésiale. Et ça mériterait un travail, pour le coup, alors là, de longue haleine, de recherche en liturgie, sur les paroles des chants qu'on chante à la messe. Est-ce qu'on a bien gardé des chants spécifiques pour le carême, pour l'Avent, pour Noël, pour Pâques, ou est-ce qu'on chante grosso modo tout le temps la même chose ? Ensuite, il va y avoir un isolement progressif, c'est-à-dire que l'adepte qui rentre dans le groupe, qui ne fait plus que de la musique pour les... Alors, je caricature hein, l'exemple. Évidemment, il y a des nuances dans tout ça. Hein. Pour les petits frères des Coquelicots de Jésus, eh bien, il va se couper, finalement, du reste, puisque tout son temps, c'est la musique pour eux. Donc, il faut faire des répétitions, il faut faire des concerts, il faut faire des retraites. Ils sont appelés pour aller animer un camp de jeunes, etc. Et donc, de plus en plus, ils peuvent être... isolés du reste. Voilà. Et comme ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en fait, parce que le leader impose des rythmes et puis une sortie qui n'était pas prévue, je ne sais pas où, enfin, à 200 km, il faut préparer les instruments de musique, il faut à nouveau répéter. Donc, en fait, ils ont beaucoup de travail, ils sont toute la journée, ou dans une maison d'accueil. Mettons qu'il y a aussi les petites sœurs des Coquelicots de Jésus, qui sont leurs voisines, qui ont une maison d'accueil, voilà les petites sœurs des Coquelicots de Jésus qui sont sœurs comme moi, je suis architecte d'intérieur, hein. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont fait des vœux privés, c'est pas du tout des vœux religieux, on leur fait croire qu'ils sont religieux, on leur donne un habit, mais en vrai, 4/5 du temps, ce sont sur le plan canonique des laïcs, voilà, donc c'est des... comment ça s'appelle, les associations de laïcs menant la vie commune, mais ce ne sont pas des vœux religieux comme tels, ce sont des vœux privés, en fait. Donc on leur fait croire qu'ils ont fait des vœux perpétuels, et en fait, ils n'en ont pas fait quand ils sortent et qu'on s'en rend compte. Bon. Bref, et du coup, ils sont épuisés, ils travaillent tout le temps, il faut qu'ils se lèvent à 6 heures pour l'office, après il y a une heure d'adoration, après il y a le chapitre où on va leur distribuer les tâches à faire. Donc toute la journée, ben, il y a ceux qui vont préparer le repas, il y a des groupes qui arrivent, il y a beaucoup de monde, il faut aller chercher des fruits à la banque alimentaire, l'après-midi, il faut refaire les chambres parce qu'il y a un autre groupe qui arrive, et puis c'est le soir, et puis il y a la prière de la nuit, puis il y a une prière de guérison entre 11h et 1h du matin, et paf, ils vont dormir 4 heures. Là, je l'ai entendu, ça. Donc du coup, tout ça, ce sont des techniques de mise en place de l'emprise, puisqu'en fin de compte, les gens ont plus 12 secondes de temps de cerveau disponible pour réfléchir ou pour parler avec leurs voisins. Parce que souvent, dans les techniques de mise en place de l'emprise, il y a aussi l'interdiction de critiquer. Donc en fait, si dans la communauté, vous commencez à dire « Non mais attends, là on n'en peut plus, il faut qu'on dorme, quoi. » Ça, c'est le démon qui te fait dire ça. Et puis, il y a des stratégies de surveillance, comme je vous le disais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'en peut plus, qui est en train de craquer, on va lui dire, mais peut-être qu'il faudrait que tu ailles faire une retraite de guérison, voilà, et ainsi de suite. Du coup, mise en place progressive de la culpabilité liée au doute, parce qu'en fin de compte, vous n'y arrivez pas. Vous êtes épuisé, vous n'y arrivez pas. Et donc, vous vous dites, mais purée, pourquoi j'y arrive pas, quoi ? Et le leader déviant va dire, mais attends, mais si tu te donnes complètement, tu ne seras pas fatigué, en fait. C'est parce qu'il y a en toi quelque chose qui résiste. Donne-toi complètement. Et si tu veux, parce que moi, je pense quand même qu'il y a l'esprit de critique qui est présent en toi. Donc peut-être qu'il faut que je fasse une prière de délivrance pour te libérer de l'esprit de critique. Alors, je caricature et en même temps, pas tant que ça. Donc du coup, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous perdez tout esprit critique, vous n'avez plus personne pour discuter à bâton rompu de la vie et pour dire que pourrait, vous êtes fatigué, que vous en avez marre, voilà. Et donc vous avez une sorte de paralysie du système de défense, avec finalement une sorte d'altération du jugement liée aux pressions graves et réitérées que vous subissez. Quand j'ai fait le DU sur l'emprise, alors je me rappelle d'une dame qui était venue témoigner, c'était pas dans l'église là, mais en tout cas le gourou lui a envoyé des SMS, je sais pas, 70 fois par jour, pour lui dire ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et du coup, à chaque fois qu'il fallait qu'elle fasse un truc, est-ce que les tomates, j'achète lesquelles ? Tu m'as dit d'acheter des tomates, mais c'est lesquelles ? Tu m'as dit d'acheter du pain, mais je prends quoi comme pain ? Elle peut plus décider par elle-même de ce qu'elle va faire. En fait. Le sociologue dont je parle, là, qui a écrit L'Empreneur, dit ceci, une des caractéristiques de toute relation d'emprise est d'engendrer énormément de signes et d'interprétations. L'intensité du travail interprétatif donnant en quelque sorte la mesure de l'emprise, de sa profondeur de champ. C'est très important. C'est-à-dire que tout devient un signe à interpréter, en fait, dans ce système-là. Vous guettez la tête du gourou pour dire « Est-ce qu'aujourd'hui, il va me dire que j'ai bien fait ou est-ce qu'au contraire, il va me dire que j'ai mal fait ?» Et vous guettez les signes. « Oh purée, il n'a pas souri quand il m'a vu, je vais me prendre un scud. » Et vous êtes tout le temps à guetter les signes de ce qui se passe pour les interpréter parce que parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver, parce qu'un jour, on vous dit que vous êtes génial, et le lendemain, on vous dit que vous êtes super nul. Je continue ma citation. « Aider à sortir de l'emprise, c'est avant tout réorganiser les interprétations, opérer les bonnes affectations, définir les places et les rôles, ordonner les signes, surnager dans l'afflux de signifiants sans sombrer, comme un sauveteur qui lutte pour ne pas couler, avec celui qu'il vient sauver de la noyade. » Voilà. Donc ça va donner des petits cailloux, parce que heureusement, je vais parler un peu de déprise après. Hein. Et puis, à l'excès, finalement, l'adepte manipulé devient à son tour manipulateur. Il est tellement rentré dans le système qu'il va à son tour faire pérenniser le système. C'est pour ça que ce n'est pas parce que le leader n'est plus là que la communauté n'est pas problématique. Et ça, c'est une question majeure que moi, je suis absolument incapable de résoudre hein, dans l'Église. C'est-à-dire que vous pouvez exfiltrer le leader déviant d'un groupe. Voilà, le fondateur des petits frères des Coquelicots de Jésus, on le vire. Il est parti, très bien. Comment on fait avec les gens qui restent? Est-ce qu'on dissout le groupe? Mais quand on le dissout, qu'est-ce qu'il fait? Il va se reconstituer avec le leader qui a déménagé au Mexique. Le truc classique, c'est ça. Hein, le leader déménage, il trouve un évêque accueillant, voilà, en général politiquement de sa tendance, de sa couleur, et il reconstitue autour de lui le groupe. Donc ça, c'est arrivé dans plein de groupes. Ou bien vous vous dites, bon, on va essayer de réformer le groupe. Mais la question, c'est, est-ce que des membres qui ont fait partie d'un fonctionnement déviant pendant 15 ans peuvent se réformer? On essaie d'y croire, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, quand le groupe en question, il y a 600 membres, on va les recycler comment, les 600 membres? On ne peut pas. Donc, aujourd'hui, les communautés religieuses ou les paroisses ne sont pas en capacité d'accueillir... Enfin, moi, ma communauté, elle n'est pas en capacité d'accueillir 3 sœurs des Coquelicots de Jésus... qui seraient sorties et qui seraient ensemble parce qu'elles risquent de reproduire un fonctionnement qui ne colle pas. Et donc, éventuellement, en accueillir une pour 6 mois peut-être, mais ce n'est pas sûr qu'on puisse faire mieux. Hein. Donc du coup, la seule possibilité, c'est de se dire on va nommer des visiteurs qui vont être des assistants, plus exactement, qui vont accompagner la communauté pour l'aider à se réformer. Mais en fait, quand il y a des gens qui... Moi, j'ai des proches hein, qui ont été nommés assistants de telle ou telle communauté, ils savent quand ça commence, ils ne savent pas quand ça se termine. Et à la fin de 6, 7, 8, 10 ans, ils ne sont pas certains que ça ait servi à quelque chose. Alors parfois, oui. Et puis parfois, ils ne savent pas. Donc ça, c'est très, très, très problématique. Parce que ce n'est pas parce qu'un adepte est sorti d'une secte que la secte est sortie de lui. Puisque les mécanismes que vous avez acquis pendant des années, pour s'en défaire, il va peut-être falloir 20 ans. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, hein, qui sont sortis de Saint-Jean, qu'ils ne peuvent plus ouvrir l'évangile de Jean, c'est terminé, parce que ça leur rappelle trop de catastrophes. Et y compris quand ils ont retrouvé une stabilité, un travail, une vie ordinaire, c'est quelque chose d'impossible. Des gens ne peuvent plus aller à la messe pour les mêmes raisons, et ainsi de suite. Parce que c'est impossible, en fait. Ça leur fait comme une réactivation du traumatisme qu'ils ont subi, et c'est pas possible. Parce qu'en fin de compte, le gourou, le leader déviant, il va mettre en place des rappels, c'est-à-dire des menaces, des annonces de danger imminent, des signes à interpréter, et y compris quand il n'est plus là, on continue d'interpréter ces signes. Si on résume tout ce que je viens de vous dire, on peut noter quelques petits linéaments sur les ressorts de l'emprise. Tout d'abord, l'occupation du territoire, ça je ne reviens pas dessus. L'intimidation et le contrôle des affects, le contrôle de l'expérience de l'autre. L'instrumentalisation, l'autre est considéré comme un objet. et on va se nourrir du désir de reconnaissance. On a tous besoin d'être reconnus. Donc en fait, ce désir de reconnaissance va être, comment dire, sollicité en permanence et d'autant plus malmené que un jour on va le reconnaître et le lendemain non. Ça va produire de l'addiction, une dépendance au leader. En fait, une des difficultés pour celui qui sort, c'est qu'il est devenu accro au leader. Il ne peut plus s'en passer d'avoir son avis. Il y a une asymétrie des relations et on va toujours solliciter l'aveu de l'autre, la justification de l'autre, pour qu'il dise à quel point il n'est pas à la hauteur, grosso modo. Donc tout ça, ça enferme dans un truc qui est terrible. Alors, comment faire pour sortir de tout ça? Donc la déprise. Je vais attendre que tout le monde soit sage. On ne peut pas se passer d'une enquête, c'est-à-dire de faire un état des lieux de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour ça, il va falloir faire des grandes enquêtes, typiquement celles qui ont été menées chez les Saint-Jean et autres. Donc un travail de mémoire, un travail de justice, un travail d'éclairage de qui a le pouvoir, et donc l'écoute des témoignages de tous, pas seulement de ceux qui sont encore dedans, mais aussi de ceux qui sont sortis. Donc une enquête non naïve, une enquête exhaustive, une enquête historique. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Et donc parfois, les seules solutions pour éclairer une situation, alors moi, c'était pas ce que j'aurais aimé, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien souvent la seule solution, c'est la presse, en fait. C'est quand les choses sont mises sur la place publique qu'on peut enfin commencer à travailler correctement et à demander une véritable enquête avec des gens indépendants, des historiens, des sociologues, des psys, tout ce que vous voulez, et qui écoutent tout le monde, tout le monde. Et ce passage-là est indispensable. Après, comment faire pour réouvrir du futur? Alors, il y a plusieurs choses importantes, encore une fois, la création de collectifs. Vous voyez, autour de Bétaram, typiquement, c'est intéressant parce qu'on voit comment des gens, des témoignages isolés, ne sont pas parvenus à faire déplacer quoi que ce soit. Et c'est quand les gens se mettent ensemble que là, il se passe un truc. Donc la création de collectifs... Alors, les collectifs de gens qui ont subi de l'emprise, c'est très compliqué parce que les gens, en fait, se déchirent, se reséparent. Enfin, c'est très compliqué tellement c'est difficile, en fait. Néanmoins, c'est sans doute l'unique solution de soutenir les gens concernés, c'est de ne pas décider à leur place, de ne pas le faire à leur place, mais de soutenir les gens concernés et dans des réseaux qu'ils élaborent en commun. Faire usage des cadres juridiques. Voilà. Il y a une loi en France, j'en parlerai tout à l'heure ou après la pause, qui reprend l'article 223.15-1 et 2 du Code pénal sur l'assujettissement dans des groupes. Eh bien, utilisons quand c'est possible, c'est très compliqué à prouver, l'assujettissement, mais quand vous arrivez avec une enquête de police à faire des relevés de SMS et quand il y en a 70 par jour, là, vous pouvez dire qu'il y a de l'emprise. Donc, utilisez les cadres juridiques, autant qu'il est possible les cadres de l'État, et quand il y a prescription, qu'il n'y a plus rien à faire, les cadres canoniques et le tribunal pénal canonique, aujourd'hui, peut-être, on verra à l'usage, mais peut-être un recours possible dans le cadre ecclésial. Et puis, au niveau, pour le coup, individuel, soutenir les capacités de perception et de discernement. Et ça, ça se fait quand on discute avec les gens. C'est-à-dire que si, autour de vous, il y a des gens qui veulent discuter de ce qu'ils ont vécu comme étant un peu bizarre, et bien surtout, il faut les écouter. Voilà. Et puis dire, surtout pas juger ce qui s'est passé, mais plutôt dire, bah écoute, là, ce que tu me dis, c'est quand même un peu bizarre, effectivement. Ah, tu trouves ça bizarre, toi aussi? Bah oui, moi, je trouve ça un peu bizarre. Monsieur Château-Renaud appelle la figure du distrayant. C'est celui qui fait un truc tellement décalé que tout le monde se dit, oula. Il dit typiquement, c'est le fou du roi. C'est le type qui va se faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu. Et on va voir, alors c'est le distrayant, il fait un truc complètement bizarre, qui n'est pas du tout dangereux, mais, Et du coup, ça va cristalliser les réactions. Il peut y avoir des réactions complètement disproportionnées du leader. Et là, on va se dire, non, mais alors là, vraiment, il exagère, quoi. C'est pas grave de faire cuire un œuf. Il n'y a personne qui est mort sur la flamme du soldat inconnu. C'est pas la peine de déclencher une guerre atomique pour ça, quoi. Donc, une espèce de réaction surdimensionnée du leader déviant devant un truc un peu anormal, un peu bizarre, ça peut réveiller quelqu'un qui va se dire « Ah oui, non, là, ça va pas, non. » Donc, ce que je disais, la conversation, donc reprendre avec sérieux l'art de la conversation, et puis accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs possibilités quand on commence à prendre conscience que ça ne va pas. Il peut y avoir le désir de sortir, ce qui, à mon avis, est la meilleure des solutions. Voilà. Alors, sortir de préférence en étant vivant. Il y en a qui s'en sortent, mais ils sont morts. Hein. Protester, c'est-à-dire aller en justice, mais là, c'est un tel parcours du combattant qu'il faut vraiment être très accompagné, très soutenu et très bien conseillé. On ne peut pas y aller tout seul. Il faut être avec un groupe, il faut en parler avant, il faut préparer les choses. Enfin, il ne faut pas y aller tout seul. Une troisième possibilité, ça va être de rester loyal, où on se dit, bah, de toute façon, OK, ça ne marche pas, mais la seule solution, c'est de réformer de l'intérieur. Donc, je reste pour aider les gens à se réformer. Donc, il y a comme ça des gens qui vont s'épuiser à essayer d'écrire ce qui ne va pas dans le groupe, en insistant, en essayant d'expliquer. Il ne se passe rien. Et ils sont désespérés de voir qu'il ne se passe rien. Je pense à une dame comme ça, qui à mon âge, qui est restée 25 ans dans sa communauté, qui a pris conscience d'un truc, qui l'explique aux autres. Et elle dit, mais en fait, elles ne comprennent pas, quoi. Pour elles, tout va bien maintenant, alors que non, tout ne va pas bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle reste loyale? Est-ce qu'elle s'en va? Comment elle fait? Et puis, ça peut être aussi de se contenter de trouver sa petite place dans son coin, au soleil, et puis de laisser courir les dysfonctionnements en disant, bah voilà, j'ai fait ma vie là. Tant pis, hein, après tout, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Quelqu'un qui va être, qui trouve son compte dans le système, qui fait maintenant partie de la garde rapprochée du leader, il peut accepter finalement d'avoir un peu de pouvoir dans le groupe et d'aménager les choses. Ça peut arriver aussi. Donc, au bout du compte, la résistance, elle va s'organiser en s'appuyant sur les institutions extérieures et les recours. Alors, c'est là où on est très pauvre, hein, c'est-à-dire que dans l'Église, les institutions extérieures, ça va être écrire à l'évêque, ça va être écrire au supérieur général quand on est au niveau provincial. Et puis, parfois, ce recours-là suffit et ça marche, heureusement. Et puis, parfois, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut avoir recours au petit groupe dont j'ai fait partie, à la CEF, sur l'emprise et les dérives sectaires, mais on a zéro pouvoir. Donc, à part faire une fiche en disant, ben oui, c'est problématique, cher monsieur, chère madame, le signaler à nouveau à l'évêque. Alors, après, il faut peut-être le signaler à l'évêque en lui disant, faites attention quand même, parce que là, on est dans l'ordre du délit. Et donc, si vous ne faites rien, ça va mal se passer. Voilà. Bon, donc là. Quand on lui explique les choses, parfois l'évêque fait quelque chose. On peut lui dire, vous savez, nous avons envoyé aussi ce signalement au tribunal pénal canonique. Donc là, ça peut le pousser aussi à agir. Ça peut être écrire à la Miviludes. Mais la Miviludes, c'est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. C'est un organisme de l'État. Mais ils sont 12 ennemis pour toutes les sectes en France. Autant dire que c'est une goutte d'eau. Ils n'ont pas de pouvoir de police. Alors, quand c'est des gros dossiers, la Miviludes peut saisir un groupe intéressant qui s'appelle la Kemad, qui est un groupe de police dédié aux enquêtes sur les sectes, quand il y a un risque de trouble à l'ordre public. Mais ils sont quelques-uns, c'est une petite équipe. Donc, ils ne peuvent pas enquêter sur tout. Mais quand ils décident d'enquêter sur un groupe, ils peuvent mettre le groupe sur écoute et là, apporter des preuves d'assujettissement au tribunal quand l'affaire arrive en justice. On peut y arriver. Organiser des collectifs capables de soutenir et de mettre ensemble les gens qui sortent du groupe pour les aider. Développer des réseaux alors pour avoir des infos. Donc ça peut être des réseaux officiels et puis des réseaux en off. Moi, sur les réseaux sociaux, j'apprends des choses que j'aurais jamais apprises officiellement. en fait. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une oreille un peu attentive sur, tiens, qu'est-ce qui se passe dans tel groupe? Donc il y a des gens qui sont un peu à l'affût de ce genre de groupe déviant, qui vont poster telle ou telle actualité qui est dans la presse en disant, tiens, il s'est passé ça. Voilà. Donc comme ça, on peut se dire, tiens, lui, je l'avais déjà vu dans tel groupe, il est parti dans celui-là. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Et puis, nous dit notre sociologue, alors ce n'est pas forcément une consolation, mais quand tout ça échoue, ce qui hélas arrive, il dit, il reste quand même le fort interne. Et ça, je trouve que c'est important pour nous ici, c'est de dire, il y a en chacun de nous la capacité de la conscience à percevoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, quand est-ce que ça va pas ou quand ça va. Et ça, ce fort interne, il faut pouvoir le cultiver, le renforcer. Une journée comme celle-ci, c'est fait pour ça. C'est fait pour se mettre à distance des choses de façon à enrichir notre esprit critique, pas du tout pour aller dénoncer tel ou tel groupe demain matin, mais pour se dire, bon, là, dans ce fonctionnement-là, il y a peut-être telle ou telle chose qui pose problème. Notamment autour de la structure que je vous disais au tout début, c'est-à-dire qu'un groupe ou une personne aurait tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et finalement aurait un langage un peu particulier, imposerait un système éducatif un peu particulier et aurait aussi main sur les finances, peut-être on peut se dire que c'est problématique. Et du coup, on peut se dire quels sont les contre-pouvoirs. Parce qu'il y a aussi des groupes qui pourraient finir sectaires, mais parce qu'on a su instituer à temps les contre-pouvoirs, bon ben voilà, le truc rentre dans l'ordre. Hein. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Alors pour ceux qui nous écoutent avant qu'on coupe, sur le site de la CEF, il y a un document très intéressant que vous pouvez télécharger qui s'appelle « Grille d'analyse pour repérer des dérives sectaires dans les institutions d'Église ». Donc ça, c'est quelque chose en ligne que vous pouvez télécharger. J'en parlerai avec ceux qui sont là après la pause. Sur le site de la Conférence des religieux de la COREF, il y a un vade-mecum des droits des religieux et des religieuses qui sont aussi très intéressants. Droit à la vie privée, par exemple. On n'a pas le droit d'ouvrir le courrier de quelqu'un dans l'État français, qu'on soit religieux ou pas. Et merci à tous.